RCF.
Bonjour à tous et bienvenue sur RCF dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Nous vous rejoignons au cœur du pont de l'Ascension et j'espère vous trouver en pleine forme. Pour être tout à fait honnête, cette émission a été enregistrée mercredi dans l'après-midi. Le Festival de Cannes venait à peine d'être lancé. Cannes, nous en parlerons un peu aujourd'hui et beaucoup la semaine prochaine. Dans cet épisode, gros plan sur un autre palais, bien loin des rives de la Méditerranée. Un palais bien parisien, connu dans le monde entier. Le Centre Pompidou annonce qu'il va fermer pour une grande rénovation et nous en profiterons pour célébrer l'esprit d'un lieu dont la liberté réjouit tous ceux qui aiment l'art et les artistes. Effervescence à Beaubourg, c'est presque un lieu naturel pour cette émission qui veut faire pétiller vos yeux et célébrer la création culturelle. Faisons un rêve, en 2030, Beaubourg réouvrira ses portes, Effervescence sera au rendez-vous et nous vous y retrouverons pour une émission en direct. Bon allez, on se calme, retour sur Terre, nous sommes à la mi-mai 2023 et j'accueille pour cette émission trois messieurs passionnés d'art. Nicolas Tocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le médecin de l'étape. Avec vous, on se plongera dans la map de Zelda. Et oui, les jeux vidéo ont toute leur place dans cette émission, d'autant plus quand il s'agit d'une des plus belles franchises actuelles. Et puis, vous nous ferez planer avec Grand Blanc, une très belle découverte pour moi en musique électronique. Guillaume Goubert, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
On sait votre passion pour l'architecture. Nous y reviendrons avec Beaubourg, mais aussi avec la Villa Malaparte à Capri. Et puis, l'ancien directeur de la Croix que vous êtes est toujours connecté à la actualité. Et avec vous, on évoquera la situation en Turquie au travers un film Burning Days. Enfin, Laurent Grelzheimer, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous êtes le directeur du 1. Vous avez vu Jeanne du Barry, film de Mai Wen sur cette maîtresse de Louis XV qui a fait mercredi soir l'ouverture du Festival de Cannes. Vous nous direz si vous avez aimé. Et puis, autre femme à l'honneur avec vous, la peintre norvégienne Anna Eva Bergman, exposée actuellement au Musée d'Art Moderne de Paris. Voilà, tout le monde est à sa place. On peut commencer Effervescence.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Situé au cœur de Paris, selon la volonté du président Pompidou qui voulait un centre d'art comme il n'en existe nulle part au monde, cet immense vaisseau de verre, un peu déroutant au premier abord, couvre une superficie de 100 000 mètres carrés sur 8 niveaux. Il comporte une bibliothèque d'information, un musée d'art moderne, un centre de création industrielle et un institut de recherche acoustique, plus un atelier pour les enfants et des salles polyvalentes pour des manifestations théâtrales et littéraires ouvertes tous les jours. C'était hier soir la fête de la culture à Beaubourg que Françoise Giroud a vue comme un centre de la réconciliation. Hier soir, des flots de personnalités, de la politique et de l'art, confondus, côtoyaient des peintres et des compositeurs célèbres au milieu desquels on remarquait les auteurs de l'ouvrage, les architectes italiens et britanniques Renzo Piano et Richard Rogers.
31 janvier 1977, Beaubourg, le centre Pompidou ouvrait ses portes. Près de 50 ans plus tard, le centre d'art pensé et voulu par le président Georges Pompidou s'apprête à le refermer pour 5 années de travaux. L'annonce en a été faite la semaine dernière par Laurent Lebon, président de l'institution parisienne, qui veut, avec cette fermeture, rénover un centre Pompidou qui a perdu son clinquant et qui, pour certains aspects, notamment énergétiques, apparaît de plus en plus décalage avec l'époque. Il s'agit donc de remettre un bâtiment aux normes d'aujourd'hui, voire de demain, mais surtout de renouer avec l'utopie originelle du projet Beaubourg. La fermeture aura lieu à l'été 2025 pour une réouverture prévue en 2030. D'ici là, quelques monnaies sonnantes et trébuchantes sont à trouver pour financer un chantier forcément titanesque. Et puis, il faut aussi imaginer comment faire vivre l'esprit des lieux pendant leur fermeture. Et là, les choses sont déjà bien avancées. Hein. Le Grand Palais, dont la réouverture tombe pile poil avec la fermeture du Centre Pompidou, pourrait être le plan B de Beaubourg, en lien avec d'autres institutions parisiennes, mais également disséminées sur l'ensemble du territoire, qui pourraient pendant ces 5 années accueillir le savoir-faire et les œuvres du Centre Pompidou. Alors, pas de princesse endormie, hein, nous promettons. L'énergie et la créativité du Centre Pompidou vont continuer à titiller les sens des visiteurs et à infuser son regard dans la vie culturelle. Il faut dire que chaque année, ce sont plus de 3 millions de visiteurs qui se pressent à l'intérieur du centre Pompidou et parmi eux, les chroniqueurs d'effervescence. Et avec eux, cette semaine, nous allons tenter de comprendre comment l'intuition d'un président de la République passionné d'art contemporain a-t-elle pris corps, comment Beaubourg est devenu Pompidou et comment aujourd'hui caractériser cet esprit qu'incarne cette institution culturelle à nul autre pareil. Et pour commencer, je pense qu'il est important de commencer par l'architecture. La journaliste, dans le reportage de TF1 que nous avons entendu tout à l'heure, évoquait, Guillaume Goubert, un vaisseau de verre un peu déconcertant au premier abord. Alors tout le monde aujourd'hui s'est habitué, mais au début, ce ne fut pas une mince affaire que de convaincre de la pertinence du projet de Renzo Piano et Richard Rogers.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, il y a encore beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'architecture de ce centre. J'en connais. Et comment dire, oui, c'est une histoire incroyable, en fait. C'est vraiment le truc qui aurait pas dû arriver, qui est arrivé, quoi. En fait, bon, il y a cette intuition de départ de Georges Pompidou de vouloir créer au centre de Paris une grande institution pluridisciplinaire, parce que vous avez parlé du musée, mais il y a aussi la bibliothèque qui va continuer à fonctionner pendant les travaux. L'IRCAM, l'Institut de Recherche Musicale. Donc, c'est vraiment un lieu pluridisciplinaire et donc, il a tout de suite choisi l'emplacement lui-même, qu'il connaissait bien parce qu'il passait à côté quand il est rentré chez lui dans l'île Saint-Louis. Et il a décidé de lancer un concours international d'architecture, ce qui était la première fois dans l'histoire des grands projets en France qu'on fasse un concours et un concours international. Avec un jury extrêmement bien composé, vraiment avec des très grands noms, et notamment le président, qui était un homme remarquable, qui s'appelait Jean Prouvé. Et donc, il y a eu, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais plusieurs centaines de... 600, hein, c'est ça, oui.
C'est Laurent qui précise.
Un très grand nombre de propositions, dont celle de deux jeunes inconnus, Renzo Piano et Richard Rogers, qui n'avaient pas très envie de le faire, enfin surtout Richard Rogers n'avait pas très envie de le faire.
Ils postulent, mais ils n'ont pas envie de le faire?
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a un bureau d'études qui les a poussés à le faire parce qu'ils avaient envie de travailler en France, donc ils se sont dit c'est une occasion, donc ils ont même proposé de les payer pour faire un projet. Et donc, comme eux, ils étaient jeunes, ils ne gagnaient pas bien leur vie, etc. Bon. Et Rogers a dit, bon, d'accord, on y va, mais on ne s'interdit rien, quoi. On fait vraiment le truc de nos rêves. Et c'était dans la lancée de 1968, cet esprit de l'époque, et ils ont fait un projet extrêmement radical, qui est celui, bon, il a connu pas mal de modifications pendant le développement du projet, mais grosso modo, c'est celui qui a été réalisé. Et le jury a très vite flashé sur ce projet, et ils ont été très courageux parce qu'ils ont dit, on ne va en couronner qu'un seul, comme ça, le président Pompidou n'aura pas le choix. Et parce que souvent, ce qui s'est passé, par exemple, du temps des grands projets de Mitterrand, c'est que le jury sélectionnait trois projets, dit au président, choisissait donc. Là, ils ont dit, c'est celui-là. Et alors, bon, je peux rentrer dans plein de détails, mais je vais être trop long.
Qu'est-ce qui caractérise l'architecture du centre Georges Pompidou aujourd'hui? Qu'est-ce qui était particulièrement détonnant, moderne?
Ce qui était détonnant et moderne, c'est de faire un espace extrêmement modulable, avec des grands plateaux, grands comme des stades de football, et sur lequel on pouvait tout modifier. Alors, il faut dire qu'à l'usage, ça ne s'est pas révélé une super bonne idée. Donc maintenant, c'est beaucoup moins modulable que ça ne l'a été. Néanmoins, c'est quand même de très, très grands espaces. L'autre truc qui était très audacieux, c'était cette idée de rejeter toutes les canalisations techniques à l'extérieur et de les mettre sur la rue derrière, la rue d'Urnard, ce qui fait alors c'est pour ça qu'on a parlé, la raffinerie de Pompidou ou des choses comme ça. Mais ça, ce qui permettait également de contribuer à cette libération des espaces intérieurs. Et puis, malgré tout, ça a beaucoup de style. Il y a ce fameux escalator qui monte le long de la façade avec ses caissons rouges. Et c'est un bâtiment qui s'est pas révélé modulable au jour le jour, mais qui s'est révélé très adaptable parce qu'il a connu pas mal de modifications depuis sa création. Et il a déjà connu une très grosse rénovation il y a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui a beaucoup, beaucoup plus de visiteurs que prévu. Donc l'usure est assez rapide. Et donc c'est ça qui justifie ces travaux qui, soit dit en passant, vont empêcher de célébrer le 50e anniversaire qui sera en 2027. Et à ce moment-là, le centre sera fermé.
Nicolas Tochet, je crois que vous avez une histoire particulière avec le centre Georges Pompidou comme mécène.
Oui, comme je suis un peu le provincial de l'étape aujourd'hui, le provincial de l'Est, en fait, c'est une histoire particulière parce que quand on prend le train pour aller à Paris, on arrive gare de l'Est, et quand on remonte la rue du Faubourg Saint-Martin, en fait, on tombe sur Pompidou. Et je crois que c'est parmi les premiers bâtiments sur lesquels je suis arrivé à Paris et sur lesquels je reviens systématiquement. Finalement, j'ai l'impression de passer toujours par le centre Pompidou-Paris quand j'arrive à Paris. Et je dis centre Pompidou-Paris parce que depuis, on a le petit frère finalement qui a ouvert Ramesse. Et autant vous dire que comme j'avais été marqué, d'ailleurs, je me souviens que j'avais été marqué par la pièce Plaid, vous savez, c'est la pièce avec un piano au centre d'une pièce comme ça, autour de laquelle il y a tout du tissu qui entoure le visiteur. Et du coup, on entre dans une pièce tout étouffée, un peu comme un studio de radio du tout. Et je sais que ça m'a marqué quand j'étais enfant. Et donc, quand Pompidou-Metz a ouvert...
Vous nous raconterez après. On va continuer à parler de Pompidou-Paris, mais je voulais avoir votre regard à vous. Laurent Grazamur, vous êtes sensible à l'architecture du centre Pompidou ou vous faites avec?
Je fais avec. Mais en réalité, non. Les Parisiens, je crois, ont adopté le monument assez rapidement, au point que maintenant, si quelqu'un, et je pense que ça va être le cas très rapidement, Laurent Lebon l'a laissé entendre, l'actuel président du centre Pompidou, ça va devenir un monument historique, tôt ou tard, ce sera classé, ce sera admis. Non, le grand échec, c'est pas le centre Pompidou, c'est le quartier. C'est-à-dire, c'est la pulvérisation d'un quartier populaire, très insalubre, et qui est devenu un quartier populaire, très laid, très moche. Ça, c'est dommage. Le raté, il est plutôt là.
Alors, Guillaume Goubert, vous évoquiez cette modularité des installations qui était peut-être pas forcément idéale. Dès 1985, il y a une grosse réorganisation du centre Pompidou et particulièrement du musée. Je vous propose d'écouter une autre archive de l'INA. Cette fois-ci, c'est un reportage de France 3 en décembre 1985 à l'occasion du réaménagement des salles d'exposition.
Parmi les nouvelles acquisitions qui justifient ce réaménagement, des œuvres qui manquaient cruellement. Ainsi, ces toits de Nicolas de Staël. Des pôles clés aussi, les musées français en possédaient très peu, deux ou trois. Ou encore ce Mondrian, New York City No. 1, négocié pendant plus de 3 ans.
Les indications, c'était d'une part d'avoir des espaces de présentation plutôt que des salles, j'aime pas beaucoup ce terme, pour un parcours principal, un parcours majeur, qui correspond un peu à la voie royale du XXe siècle, accompagné de petits espaces complémentaires dans lesquels on peut mettre tout ce fourmillement, ce foisonnement de recherche qu'a été le XXe siècle.
C'est ça l'innovation de ce programme muséographique.
Je crois qu'il y a une pédagogie par l'œuvre qui n'existait sans doute pas avant, puisque pour l'essentiel, on peut dire que la présentation était une création assez classique avec tableaux, sculptures. Et nous avons pu rajouter, grâce aux espaces que Olenti a créés, cet apport pédagogique, cette base de la pédagogie qui accompagne les œuvres.
Laurent Grazamur, je vous voyais sourire au propos du président de l'époque du Centre Pompidou. Vous ne croyez pas à la pédagogie par l'œuvre ?
Je crois à tout. je pense que l'essentiel, c'est d'aller dans les musées et de regarder les œuvres. Le reste, qu'on appelle ça une salle d'exposition ou un espace d'installation, peu m'importe, c'est du jargon de professionnel de l'expo.
Mais ce qui reste essentiel au Centre Pompidou, c'est quand même la collection d'œuvres contemporaines qui est incroyable du musée d'art moderne. On dit qu'il y a plus de 120 000 œuvres d'art alors qui tournent, hein, c'est ça qui est super. On peut aller plusieurs fois par an à Beaubourg.
Ça ne tourne pas assez, mais quand même, ça tourne. C'est tout le problème. C'est-à-dire que le succès de Pompidou est tel qu'on a, bon, il y a quand même en 45 ans 300 millions de visiteurs. On dit 3 millions par an, mais c'est beaucoup plus. Donc il y a quand même, ce qui explique d'ailleurs qu'il faille le retaper. Il y a une pression, il y a une usure, il y a une circulation considérable. Ça, c'est le premier point. Et puis on est parti d'une collection de 10 000 œuvres, ce qui est déjà très important. Il y a 45 ans, aujourd'hui, il y en a 140 000. C'est un volume considérable.
J'avais 120 000, vous voyez, ça a pris
140 000. Alors, il ne faut pas non plus imaginer 140 000 sculptures ou 140 000 grands tableaux.
C'est parfois des petits croquis.
C'est parfois des photographies, c'est parfois des estampes, des lithographies. En réalité, des tableaux et des sculptures, il y en a 10 000. Mais c'est déjà considérable.
Maintenant, de l'art numérique aussi. Hein.
Voilà, c'est déjà considérable. Ce qui explique aussi qu'il va falloir un an pour déménager le contenu, les œuvres un an a été prévu. C'est-à-dire que les travaux ne vont pas durer 5 ans. En réalité, ils vont durer 4 petites années. Voilà. Mais non, l'essentiel, c'est de regarder les œuvres. Mais quand on sait qu'il y a 140 000 œuvres, on comprend la frustration de certains, la mienne que j'exprime. C'est qu'en réalité, oui, il y a des collections permanentes. Elles sont merveilleuses. Il ne faut pas seulement aller voir les grandes expos. Il suffit de rentrer à Beaubourg ou à Orsay ou n'importe quel de ces musées fantastiques. Et dans les régions, c'est pareil. Vous avez des collections permanentes admirables. Il faut les voir. Et je trouve que Pompidou, justement, même s'il les change de temps à autre, ne les change pas suffisamment.
Je trouve que vous êtes dur. Guillaume Goubert.
Non, juste signaler que dans le projet annoncé par Laurent Lebon, il y a aussi la création à Massy, en périphérie parisienne, d'un lieu de conservation, de restauration et d'exposition. En quelque sorte, des réserves visitables. Alors ça aussi, c'est comme la modularité, c'est toujours un peu une escroquerie de parler de réserves visitables, parce que c'est pas vrai, mais je veux dire, les réserves... Dans ce lieu de réserve, il y aura des expositions, il y aura des salles visitables. Et ça peut être aussi, le concours vient d'être lancé, il faudra voir les propositions, mais ça peut donner lieu aussi à une œuvre architecturale intéressante. Il y a eu un cas récemment à Rotterdam où il y a un très très étonnant bâtiment qui a été fait en annexe du grand musée de Rotterdam, qui s'appelle Boymans & Boyningen, avec cette idée d'un endroit qu'on peut visiter, avec les réserves que je viens de dire. Mais donc ça fait partie aussi du projet, on va parler des œuvres qui vont circuler en France, de plein de choses. Mais voilà, le centre Pompidou, y compris dans l'agglomération parisienne, va se doter d'un deuxième lieu.
Alors, il a déjà un deuxième centre Pompidou, Nicolas Tochet, c'est celui qui est chez vous à Metz. Hein. Je crois que la première pierre a été posée en 2006 et puis ça, on a pu commencer à le visiter en 2010. Alors, en quoi est-ce que c'est vraiment l'héritier du centre Pompidou à Paris et puis en quoi est-ce qu'il s'en démarque ?
Déjà, je vous entendais parler d'architecture. Il est remarquable déjà par son architecture. C'est Shigeru Ban et Jean de Gassine. Alors ici aussi, ça a beaucoup fait parler, hein, ce côté chapeau chinois, justement, de l'architecture du centre Pompidou-Metz. Il y a eu pas mal de débats autour de ça. Et puis là aussi, c'est finalement petit à petit imposé dans le paysage. Il faut se souvenir aussi que le premier directeur, c'était Laurent Lebon, qui a ouvert le centre Pompidou à Metz avant de revenir d'une certaine manière à celui de Paris. Et je pense que ça a marqué avec son ambition, hein, qu'il a toujours pour l'art contemporain. Donc je pense que ça a marqué aussi cette ouverture du centre avec une première exposition chef-d'œuvre qui était assez remarquable. Et depuis, ce qu'il faut savoir au centre Pompidou-Metz, c'est qu'il n'y a pas de collection permanente. C'est-à-dire qu'il y a notamment les œuvres du centre Pompidou-Paris qui y viennent, mais également des œuvres évidemment d'énormément de collections de partout dans le monde. Mais je pense que cette absence de collection permanente, ça laisse aussi une espèce d'énorme liberté de renouvellement des expositions régulières, enfin des expositions temporaires qui viennent dans le centre. Je vous en parle assez régulièrement ici. Je vous ai parlé de l'exposition science-fiction qui s'appelait Les Portes du Possible. Là, en ce moment, c'est Suzanne Valadon, notamment. Il y a une exposition sur les jeux vidéo, d'ailleurs, c'est drôle, dans quelques semaines, qui s'appelle World Building. Et justement, ça explore des pans de l'art contemporain qui sont peut-être même pas forcément si explorés que ça au Centre Pompidou Paris. Donc, dans ce registre-là, je pense qu'on peut dire que le Centre Pompidou-Metz est très libre et presque retrouve un peu avec cette espèce d'énergie un peu disruptive, d'une certaine manière, du Centre Pompidou Paris au moment de son ouverture. En tout cas, c'est pour ça que moi, évidemment, en tant que visiteur régulier du Centre Pompidou Paris, j'étais particulièrement ravi de le voir arriver. Ce sorte de petit frère du centre Pompidou Paris à Metz.
Laurent Grelzheimer, Nicolas Tochet évoquait l'esprit de liberté du centre Pompidou. Mmh. C'est ça qui caractérise Pompidou. C'est quoi pour vous l'esprit Pompidou? Est-ce qu'il existe?
Ah oui, il existe. Moi, je dirais en clin d'œil que c'est de l'effervescence. Hein. J'ai assisté à la conférence de presse organisée par Laurent Lebon. Je dois dire, moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas. J'ai échangé deux mots avec lui, mais c'est quelqu'un qui porte en lui le projet, qui a un enthousiasme incroyable, et c'est déjà. Je pense qu'il incarne bien Pompidou actuellement. C'est-à-dire que Pompidou va fermer, mais en réalité, de ce problème, il crée une solution, je veux dire, parce que Pompidou va s'exporter dans plein de villes, dans les régions, à l'étranger. Alors, on peut dire, c'est déjà fait, c'est déjà le cas, mais ça va se multiplier. Et je pense que effectivement, on peut faire confiance aux équipes du centre Pompidou qui sont très mobilisées et qui vont profiter de cette fermeture de 5 ans pour, alimenter, faire montrer des œuvres qu'ils n'ont pas l'occasion de montrer actuellement. C'est ça le paradoxe.
Mais qu'est-ce qui distingue le Centre Pompidou, l'esprit du Centre Pompidou, des autres lieux où on peut voir de l'art contemporain à Paris ?
Alors c'est là.
Je pense au Palais de Tokyo, à toutes les fondations privées.
C'est là qu'on rejoint ce que disait tout à l'heure Guillaume Goubert, quoi. On rejoint l'architecture. Alors pour le coup, moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais pas du tout emballé. Si je veux être honnête, il y a 20 ou 30 ans, c'est pas un lieu qui m'inspirait spécialement. Mais justement, la transparence, ces grands espaces, ces grands plateaux de Beaubourg permettent quand même de faire des expos très dynamique, des rétrospectives quand même très larges, très amples. Moi, j'ai le souvenir justement de la rétrospective, par exemple, Nicolas de Staël. Je crois que c'était en 2003, mais je pense que ça a été la plus belle exposition Nicolas de Staël qu'on ait pu voir. Avec toutes les œuvres majeures.
Je précise pour les auditeurs, je crois que vous avez écrit une biographie.
Oui, et malheureusement, en plein...
vous connaissez bien.
Juste avant que le premier confinement du Covid ne soit déclaré, l'exposition Matisse a été ouverte pour quelques jours seulement. Malheureusement, personne ne l'a vue, sauf la presse. Mais c'était une exposition majeure. Je pense que ça permet ce genre d'événement, d'une part. Et puis surtout, la bibliothèque. C'est le poumon du musée, et ça veut dire que, alors c'est principalement une clientèle de jeunes, mais ça veut dire que des milliers de jeunes,
d'étudiants,
tous les jours, d'étudiants prennent place dans Beaubourg, dans le Centre Pompidou. Il y a comme ça différents flux qui font que c'est pas un musée.
C'est un
lieu de culture, d'échange, et je crois que c'est important. Et l'IRCAM, par exemple, qui est à côté,
fondé par Pierre Boulez.
Voilà, consacré à la musique contemporaine. Bon, certes, c'est pas forcément la musique qu'on écoute tous les jours, ni même tous les mois. C'est quand même aussi un ballon d'oxygène à côté, une respiration, des effervescences qui jaillissent.
Guillaume Goubert, l'esprit Beaubourg, l'esprit Pompidou, pour vous ?
Alors, oui, je voudrais dire que c'est la solution. Le Centre Pompidou a ouvert la voie par rapport aux institutions que vous citiez tout à l'heure. Je veux dire, ils sont arrivés après, c'est Beaubourg qui a initié, j'aime pas du très bon français, mais tout ça. Je veux dire, et une des choses qui a été vraie dès le départ et qui le reste aujourd'hui, c'est la pluridisciplinarité, c'est le croisement des choses. Moi, les expositions qui m'ont beaucoup marqué, par exemple, c'était la série qui s'appelait Paris-New York, Paris-Berlin, où on faisait se rencontrer l'art de deux pays et l'art sous toutes ses formes, à la fois les arts plastiques, mais aussi le cinéma. Il y a des salles de cinéma des salles de projection dans le centre, la musique. La photo a été très tôt à l'honneur au Centre Pompidou. Aujourd'hui, c'est une banalité, mais à l'époque, c'était complètement nouveau. Donc, Beaubourg est à l'origine d'une vraie révolution dans le domaine des musées qui a atteint le monde entier. Si aujourd'hui il y a autant de musées qui se créent partout dans le monde, certes il y a des questions un peu de d'orgueil local qui font qu'on veut avoir son musée, etc. Mais au point de départ, c'est Beaubourg qui a montré. On a beaucoup parlé il y a quelques années du musée de Bilbao parce que son architecture est extrêmement spectaculaire. Avant Bilbao, quoi. Je veux dire, c'était fait. Alors du fait que Bilbao, ce qui était original, c'est que c'était dans une ville plutôt périphérique, en très mauvaise santé, etc. Bon, créer un musée au centre de Paris. Bon, je voudrais dire quand même une chose. Je pense qu'aujourd'hui, il serait absolument impossible de créer le Centre Pompidou dans cet endroit-là. Ce serait absolument hors de question. C'est là où il y a eu une espèce de fenêtre, de moment, qui, par l'espèce de conjonction que j'essayais de décrire tout à l'heure, a fait naître cette sorte de soucoupe volante en plein milieu de la ville.
Laurent Zemmer, dernier mot, après je donne
mais en comparaison, on peut prendre, tout à l'heure je vais parler d'une exposition de Bergman au musée national d'art moderne de Paris, au musée national, pardon.
Enfin, au musée d'art moderne de la ville de Paris.
Vous m'avez compris.
Pas celui de Beaubourg.
Oui, c'est une très belle exposition, c'est sublime. Le musée est un beau musée, mais il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose de presque guindé, élitiste, compassé. Et en regard, je le dis d'autant plus que l'exposition est magnifique, mais en regard, quand vous pensez au Centre Pompidou, ben vous avez un lieu qui vit, qui respire, qui vibre. Et je crois que là, il y a une très très grosse différence et que ça s'explique largement par ce que vient de dire Guillaume.
Nicolas Tocher, un dernier mot sur le Centre Pompidou ?
Non, mais je rejoins ce qu'on dit Guillaume et Laurent, c'est-à-dire qu'à Metz aussi, il y a eu tout de suite cette adéquation entre le projet, on va dire, muséal, et puis le projet d'art vivant à côté, c'est-à-dire les concerts. Et là, aujourd'hui, c'est les concerts, les spectacles vivants, la danse, le cinéma. C'est porté par les équipes maintenant de Chiara Parisi, hein, qui est l'actuelle directrice du centre et qui continue à préserver cet esprit-là. Et puis dire aussi que dans les annonces qui ont été faites sur les travaux donc, du Centre Pompidou Paris, en dehors de Massy, on a tout de suite dit que voilà, il y allait avoir beaucoup de choses qui allaient se passer à Metz dans ce transfert de collection. Donc je pense qu'on peut s'attendre à Metz à avoir beaucoup de belles choses dans cette période de travaux à Paris. Ce sera peut-être l'occasion de vous accueillir ici, les amis.
Volontiers.
Comment boucler cette page consacrée au Centre Pompidou musicalement ? Eh bien, on a évoqué l'IRCAM. Eh bien voilà, ce sont des enfants de l'IRCAM qui ont fait leur première rave party au Centre Pompidou. Les Daft Punk, vous savez qu'ils sont séparés depuis 2021. Ils n'avaient rien sorti depuis 10 ans. Leur dernier album a 10 ans. Et pour la réédition, eh bien, ils ont fêté ça au Centre Pompidou. C'était jeudi dernier. Les premiers arrivés ont pu découvrir le clip d'Infinity Repeating dans un dispositif de plus de 30 enceintes et un système son conçu par les experts de l'IRCAM. Je vous propose de l'écouter dans un dispositif sonore un petit peu plus sobre, mais que j'espère tout aussi agréable, si ce n'est plus. Voilà, Daft Punk, réédition de leur dernier album avec le chanteur Julian Casablanca.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Et bien sûr, l'actualité culturelle cette semaine est dominée par l'ouverture du Festival de Cannes. Le tapis rouge est à nouveau déroulé depuis mardi sur la Croisette, la plus célèbre du monde. Et pour la première soirée, c'est l'équipe du film de Mai Wen, Jeanne Dubarry, qui a monté les marches du Palais des Festivals avec le roi Johnny Depp. Alors Laurent, vous n'étiez pas à Cannes, mais le film est sorti mercredi en salle avec des avant-premières un peu partout dès mardi soir. Alors, vous aimez les films en costume ou vous aimez le cinéma de Mai Wen ? Ni l'un ni l'autre, vous allez me dire.
Les films en costume, oui, j'aime beaucoup. Et là, je suis servi.
Oui.
C'est... Alors, je suis quand même très étonné parce que la presse a déjà rendu compte du film, etc. Et je vois que la presse est très méchante, très sévère, très caustique. Alors, peut-être à cause de Mai Wen, que je n'ai pas l'honneur de connaître. Mais en tout cas, je la trouve très injuste. Je la trouve très injuste parce que moi, je ne connais, je suis pas un grand cinéphile. Je suis allé voir le film.
À chaque fois, il nous dit ça.
Et je l'ai apprécié. Mais je veux dire, il faut savoir quand même regarder. Alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre au sens de la cinéphilie, mais c'est un. Vous passez un très bon moment.
On écoute la bande-annonce.
Ah, volontiers.
On écoute la bande-annonce.
Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange. Oh.
un ange tombé du ciel.
Je vous attendais, moi.
Je t'aime.
C'est pas ça l'amour.
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie?
Pour aller où?
Jean du Barry veut que je vous présente au roi.
La comtesse Jeanne du Barry.
Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
Une invitation à quoi?
À la bagatelle.
Voilà le roi. C'est Louis XV, Jeanne du Barry, c'est une des maîtresses de Louis XV, d'extraction populaire, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, une certaine Jeanne Bécu, un peu plus que d'extraction populaire, parce qu'en réalité c'est une fille naturelle, donc une bâtarde. Et donc c'est un peu l'idée du film, c'est l'histoire, comme on dit maintenant un peu pompeusement, d'une transfuge de classe. C'est une petite fille qui est rejetée par toute la société française de l'époque, en réalité, comme le sont les bâtards, les bâtardes à l'époque. Et puis, c'est une jeune fille qui va finir par s'émanciper avec beaucoup de guillemets, parce qu'elle va s'émanciper dans la vénalité et dans ce qu'on n'ose pas appeler la prostitution. On appelle cela à l'époque dans les milieux huppés la courtisanerie. Donc c'est un aspect très intéressant, je trouve, dans le film. Le film est bien léché, je veux dire, il est bien fait, il est bien construit, il est bien posé, il est admirablement bien joué par tous les comédiens, les acteurs. Mais moi je trouve qu'il est intéressant au-delà du spectacle, parce qu'on est à Versailles, etc. Au-delà du spectacle, il est intéressant parce que, pour deux raisons sans doute, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que on découvre une société française à l'époque quand même gangrenée par la courtisanerie, à un point qu'on ne l'imagine pas.
C'est-à-dire que pour s'élever...
Oui, non mais les mœurs sont vraiment très dissolues, comme on disait autrefois. Enfin, vraiment, l'amour s'achète, le sexe s'achète dans des conditions terribles. Ça va durer jusqu'au... Bon, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, on le sait bien, ça va durer jusqu'au début du XXe siècle de manière considérable. Paris, Versailles, selon les cas, est vraiment attire le monde entier, en partie pour cette raison. Le sexe est partout. Le paradoxe, c'est que le film, d'une certaine manière, est relativement pudique. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de scènes de sexe ou lascives, et même quasiment pas. Bon, il y a entre Louis XV, Johnny Depp et la du Barry, Mai Wen, il y a des échanges de baisers, etc. Mais c'est pas du tout le propos du film. Le propos du film, c'est vraiment de montrer Versailles à l'époque, avec sa chorégraphie insensée, ses courbettes, ses révérences, toute cette étiquette monstrueuse et qu'on connaît et qu'on a étudié un peu à l'école et qu'on... Et donc c'est, pour ces raisons, je trouve que c'est un film assez saisissant et en tout cas que j'ai vu avec beaucoup de plaisir.
Et alors vous voulez faire un parallèle un peu osé avec un film beaucoup moins clinquant, qui est sorti il y a quelques semaines et qui vous a beaucoup touché et qui est peut-être l'antithèse de La du Barry.
Oui, parce que d'un côté, bon, La du Barry, c'est un très gros budget, je connais pas les chiffres et je m'en moque, mais bon, ce sont des acteurs prestigieux qui sont très bons. Même Johnny Depp, hein, qu'on a vu sur La Croisette, empâté, bouffi et j'allais dire quasi idiot, dans le film est excellent et a un regard très perçant. Donc il y a d'un côté un film à grand budget avec des stars et The Quiet Girl, un film irlandais qui se passe en 1981 dans le milieu rural. C'est l'histoire d'une petite fille de 9 ans qui est très malheureuse et qui est très maltraitée dans sa famille, qui est, j'allais dire, prêtée ou plus exactement délaissée pendant 3 mois chez une lointaine cousine et qui est dans cette autre famille très bien traitée et qui se découvre et qui revit et qui renaît. Bon, ça paraît très mince. C'est un film des acteurs qu'on ne connaît pas, d'une grande sobriété, très peu de dialogue, les silences et... tout petit budget probablement. Le film a quand même été nominé à la cérémonie des Oscars à Hollywood comme l'un des meilleurs films internationaux. Donc bon, ce n'est pas rien. Moi, je vous conseille vivement d'aller le voir parce qu'il va bientôt quitter l'affiche.
The Quiet Girl.
The Quiet Girl. Et c'est vraiment un film très authentique, sobre et authentique.
On reste dans l'univers du cinéma. On va évoquer à nouveau des marches très célèbres, Guillaume Goubert, dans l'univers du 7e art. Il s'agit de la villa Malaparte et de ses 32 marches, c'est ça? Vous les avez comptées?
C'est pas moi qui les ai comptées, non. C'est l'auteur d'un livre qui est sorti ces jours-ci de Pierre de Gasquet, qui s'appelle comme ça, Les 32 marches, où il raconte l'histoire de la villa Malaparte, c'est-à-dire la villa que l'écrivain Curzio Malaparte s'est fait construire à Capri. Et qui est très célèbre, notamment parce que Jean-Luc Godard y a tourné une bonne partie du Mépris, un film avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, et notamment sur ces 32 marches et sur ce toit solarium.
Le film qui ressort
restauré à Cannes, enfin qui va être présenté à Cannes, puis sortir en salle le 24 mai, qui est un film assez légendaire, il faut bien le dire, de Jean-Luc Godard. Mais voilà.
Alors, si elle vous intéresse, cette villa, c'est pas pour Brigitte Bardot, c'est
non,
pour son architecte.
C'est pour son architecture. Son architecte, c'est une question compliquée parce que, en fait, Malaparte, qui était écrivain, il n'était pas architecte, a commandé un projet à un architecte très célèbre de l'époque. Mais le projet qu'il a reçu, parce que l'architecte en question n'est pas venu sur place, le projet qu'il a reçu lui a pas plu, donc il a décidé de faire ça avec le maçon du coin. Et il a construit une maison qui est extrêmement étonnante, qui est construite sur un tout petit replat, sur un cap rocheux, un endroit très escarpé de la côte de Capri, avec une vue absolument somptueuse. Et cette maison, effectivement, se caractérise par un immense escalier qui monte sur le toit, qui était le solarium où, paraît-il, Malaparte faisait du vélo. Et pas si grand que ça. Et c'était un peu risqué parce que s'il tombait, il n'y a pas de garde-corps.
Il y a 32 marches.
Non. Et puis en dessous, c'est quand même le vide. Voilà. Et c'est un lieu très mystérieux qui n'est pas ouvert à la visite. Qui appartient au petit neveu de Malaparte maintenant, qui ne s'ouvre que pour des professionnels, enfin je veux dire des architectes, des stylistes, des photographes, etc. Mais c'est pas ouvert à la visite. D'ailleurs, c'est assez difficile d'accès. Il faut marcher pendant à peu près 3 quarts d'heure depuis Capri pour y arriver.
On imagine l'équipe de tournage.
Oui, ça a pas dû être simple, effectivement. Enfin, peut-être qu'ils venaient en bateau, puisqu'il y a un endroit pour débarquer au pied de la villa. C'est vraiment une maison. C'est une maison qui est, justement, Pierre de Gasquet, dans son livre, dit qu'elle est monacale et luxueuse à la fois, futuriste et sans âge. Elle se caractérise notamment par de très grandes baies qui, quand on est dans la grande salle à l'intérieur, que Malaparte a fait enterrer, entouré par des moulures comme si c'était des tableaux. Et dans un de ses deux livres les plus célèbres, le plus célèbre de tous, c'est Caput, mais il en a écrit un autre qui s'appelle La Peau. Il raconte, qui sont des livres un peu autobiographiques, c'est une sorte de, un petit peu de Blaise Cendrars italien, Malaparte. Il racontait beaucoup de choses, on ne savait jamais très bien si c'était la réalité ou si c'était quelque chose qu'il avait arrangé à sa manière. Et il raconte qu'il reçoit quelqu'un dans cette maison qui lui dit c'est vous qui l'avez fait construire, et il répond je n'ai dessiné que le paysage. Et effectivement, quand on regarde ces baies qui sont magnifiques avec un sol qui fait avec des grandes dalles un peu disjointes, c'est vrai qu'on a l'impression d'être en face d'un tableau. Donc c'est une maison que je rêve de visiter, j'espère y arriver un jour, mais c'est pas sûr. Mais
en t'écoutant, on avait l'impression d'y être.
Et voilà,
c'est
cas,
gentil, c'est gentil. Voilà, elle est rouge pompéien, ce qui va assez bien à côté de Naples et de Pompéi. Voilà.
Le livre s'appelle
Les 32 marches,
Les secrets de la villa Malaparte, et c'est chez Stock.
Pierre de Gasquet.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Et le cinéma n'a pas son pareil pour raconter le monde tel qu'il va et souvent tel qu'il ne va pas. Guillaume Goubert, vous nous parlez d'un film qui fait écho à l'actualité internationale. Recep Tayyip Erdogan sera-t-il le prochain président de la Turquie? Va-t-il continuer à présider la Turquie? On le saura dans quelques jours. Le premier tour des élections a eu lieu dimanche dernier. Il apparaît comme le favori. Et vous avez été voir un film qui évoque la situation contemporaine en Turquie, Burning Days, un film qui raconte le combat d'un petit juge contre la corruption. On va se mettre dans l'ambiance et vous nous racontez l'histoire après.
Savcı Bey, ben avukat Şahin Öztürk. Kusura bakmayın savcım, bu kadar zamandır bir hayırlı olsuna gelemedik.
Merhaba Savcı Bey, nasılsınız, sevdiniz mi yanıkları?
Havamız iyidir de, işte bir sıkıntımız su.
Ya sizin için işte öyle küçük bir program savcım.
Yalnız Sayın Başkan, ne programı, niye zahmet ettiniz böyle?
Ça vous inspire pas ce rire, Guillaume Goubert? Vous n'avez
non,
pas
non, non, mais ça me fait revivre une séquence particulièrement éprouvante du film. Effectivement, c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune procureur qui arrive dans une toute petite ville d'Anatolie centrale, une région semi-désertique, et qui a des convictions, qui croit à la force du droit et qui décide de mettre fin à certaines pratiques locales qui lui paraissent pas convenables, comme par exemple de chasser le sanglier dans les rues de la ville en tirant des coups de feu, ce qui est dangereux. Et il se heurte évidemment à ceux qui ne veulent que des notables, qui veulent que rien ne change parce qu'ils vivent comme ça et ça leur plaît bien, et puis aussi parce qu'ils ont des intérêts financiers à ce que rien ne change. Et il se retrouve, lui, un peu, justement, c'est ce bout de scène qu'on entendait là, le son de ses rires un peu sardoniques. Il se trouve compromis, en fait, un peu maladroitement par ses notables, et ça le met dans une position très compliquée pour poursuivre sa mission. C'est un film qui, effectivement...
Qu'est-ce que ça nous dit de la Turquie d'aujourd'hui?
Ben, ça nous dit... j'ai retrouvé un propos du réalisateur qui s'appelle Emin Alper, disant que ce qu'il avait voulu évoquer, c'était précisément parce que ça se passe dans un contexte électoral local, et il est assez clair que le maire sortant est très corrompu et entouré de personnes très corrompues, et il est réélu, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à l'échelle de la Turquie tout entière. Ce film permet aussi de comprendre la dualité très profonde de la société turque entre une côte méditerranéenne et des grandes villes, qui ne sont pas toutes sur la côte, je pense à Ankara, qui sont extrêmement, civilisées.
Occidentalisées.
On peut dire occidentalisées, effectivement, avec un niveau d'éducation très élevé. Il y a d'excellentes universités en Turquie. Et un monde, on dirait, rural turc qui, lui, est encore dans une situation de retard, d'arriération impressionnante. Et c'est un peu la force d'Erdogan, c'est cet électorat-là, c'est cet électorat de l'Anatolie qui est très, très nationaliste, très fier à bras. Et effectivement, le personnage d'Erdogan leur convient très très bien, quoi. Donc ce film, qui en lui-même est un très beau film, une très très grande, de très grande qualité plastique, bon, une musique qui rit un peu les oreilles, je trouve, mais qui vraiment visuellement est très très beau, est en même temps effectivement une sorte de parabole de la situation actuelle en Turquie.
Voilà, ça s'appelle Burning Days. Les amateurs de jeux vidéo auront reconnu l'un des hymnes d'un jeu vidéo culte, Zelda. Nicolas Tocher, quand vous avez rejoint l'équipe d'Effervescence en septembre dernier, c'était avec la promesse de nous parler de jeux vidéo dans cette émission. Nous sommes à la mi-mai et j'ai envie de dire enfin.
Oui, mais là, l'occasion était trop belle cette fois-ci. On ne pouvait pas laisser passer ça, puisque Zelda, ça fait quand même partie des licences mythiques de jeux vidéo. Même ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas amateurs de jeux vidéo connaissent le nom Zelda. C'est voilà, Zelda. La première occurrence de Zelda, c'est le premier jeu, c'est 1986. Hein, c'est-à-dire, c'est un an après Super Mario Bros. Ou 2 ans après Tetris. Hein, c'est pour vous situer à peu près. On est vraiment quasiment dans la préhistoire des jeux vidéo, en tout cas dans l'histoire des jeux vidéo. Et ce sont ce type de jeux vidéo qui vont fixer les fondements de la manière dont on joue encore aujourd'hui. Donc Zelda a eu cette même importance que ces très grands jeux que peuvent être un Mario par exemple. Et donc bah alors pendant ces 40 ans de jeux Zelda, puisqu'il y en a eu énormément, je peux pas vous raconter vraiment une histoire puisque ce serait on y passerait toute l'émission, mais il y a quand même quelques éléments. Il est toujours question finalement d'exploration, de quête dans un monde qui semble un peu médiéval, hein, mais qui est très très onirique, très fantastique, qui a un univers un peu magique. Et le rôle du joueur est toujours de sauver le monde et de sauver une princesse. Donc en soi, il n'y a rien d'original. Hein. On remonte vraiment dans les histoires, dans les contes quasiment enfantins. Et d'ailleurs, Stéphanie, je ne sais pas si vous le savez, mais le Zelda, c'est le nom de la princesse. Ce n'est pas le nom du héros. Le héros qu'on joue dans les Zelda, il s'appelle Link, mais c'est le nom de la princesse finalement qui a donné son nom à cette série de jeux vidéo. Donc voilà, ce nouveau Zelda, il est sorti la semaine dernière. Alors c'est déjà un espèce de carton commercial puisqu'ils en ont déjà vendu 500 000, ce qui est considérable. Et c'est une suite directe du précédent qui était sorti en 2017 et qui avait déjà été reconnu comme un des jeux de la décennie, en tout cas sur la décennie dernière, pour la grande liberté qu'il laissait aux joueurs d'explorer un monde complètement ouvert et une grande liberté sans l'orienter vers la résolution de l'histoire ou de l'énigme. Et ça avait surpris un petit peu déjà tout son monde à l'époque.
Donc Breath of the Wild est sorti il y a une dizaine de jours. Vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait la particularité de ce nouveau jeu Zelda ?
Alors Breath of the Wild, c'était en 2017, mais là c'est Tears of the Kingdom qui est un peu la suite de Breath of the Wild qui était en 2017. Mais donc je vais commencer par des nuances peut-être, parce qu'effectivement il y a eu énormément d'articles dithyrambiques sur le jeu, énormément de chroniques vidéo, etc. Et bon, alors on reste dans quelque chose qui est sous ses apparences un peu enfantines, mais qui est un jeu compliqué. Je dirais que c'est pas forcément le jeu par lequel il faut commencer le jeu vidéo si on n'a pas l'habitude de jouer, parce qu'il est pas si simple que ça. Alors évidemment, il y a beaucoup de le démarrage du jeu nous apprend comment utiliser les commandes, etc. Mais malgré tout, on reste dans quelque chose de complexe, notamment parce que la liberté qui est donnée au joueur lui laisse toute latitude. Et donc, quand on a toute latitude pour explorer un monde, on se perd un petit peu, et on se perd aussi parce que là, il laisse aussi la liberté. C'est la grande évolution par rapport à la version précédente, c'est qu'on peut construire des objets avec des objets qu'on trouve dans l'univers du jeu. On peut construire des objets, des machines qui permettent elles-mêmes de résoudre des énigmes. Donc, de fait, on a cette grande liberté et de fait, ça rend le jeu un petit peu compliqué. Et puis, le jeu, il ne fonctionne que sur la Switch, qui est la console de Nintendo, qui date déjà aussi d'une dizaine d'années, et que pour des joueurs ou joueuses habitués maintenant aux nouvelles consoles, la PS5, etc., les dernières consoles, ont un graphisme qui pourrait presque, puisque le monde du jeu vidéo évolue très vite, qui pourrait presque paraître un petit peu daté. Mais bon, quand il s'agit d'un bon jeu, on oublie vite ces petites questions techniques. Et en l'occurrence, il s'agit d'un très bon jeu, parce que c'est vraiment un jeu magique, puisqu'il y a ce bonheur de l'exploration de l'univers magique de Zelda, et puis la joie, cette joie de l'invention, de créer, et de créer des machines à partir de rien. Et puis, il n'y a pas forcément une seule solution de résoudre les énigmes posées par le jeu, il y en a plein. Et autant dire que depuis même pas une semaine qu'il est sorti, en fait, il y a énormément de vidéos qui sont déjà postées avec des joueurs qui ont imaginé des machines, des solutions que sans doute les concepteurs du jeu eux-mêmes n'avaient pas du tout imaginé pour résoudre les énigmes en question, et puis même des choses drôles, etc. Donc ce côté bac à sable de ce nouveau Zelda offre un terrain de jeu, c'est le cas de le dire, mais absolument génial. Donc je suis content d'avoir pu vous parler aujourd'hui de jeux vidéo une première fois dans cette émission, mais je pense que là l'occasion était belle. C'est un très beau jeu, il faut l'essayer, si encore une fois, même si vous n'avez jamais, par rapport à ce que je dis sur la difficulté, essayez-le pour rien que pour l'univers. Et puis sinon, regardez des vidéos de gens qui jouent. Vous savez, ça se fait beaucoup maintenant sur Twitch, qui est une chaîne dédiée à ça. Eh bien, en fait,
regardez les gens jouer, autant jouer soi-même.
Alors, quand on n'a pas l'habitude de jouer soi-même, je vous assure que parfois, pour des jeux très difficiles, ça permet de voir l'exploration au-delà de ce qu'on veut.
Zelda, à ne surtout pas offrir à vos enfants s'ils ont des examens ou des concours bientôt. On attend les vacances d'été. Merci beaucoup, Nicolas Tochet. On le sait, on redécouvre ces dernières années des artistes féminines qui, même si elles ont rencontré le succès de leur vivant, ont été un peu laissées de côté par l'histoire de l'art. Alors après Rosa Bonheur, après Georgia O'Keeffe, après Ilma af Klint, voici Anne Ava Bergman. Laurent Gazheimer, vous avez été voir l'exposition qui lui est consacrée au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est pas le musée d'art moderne de Beaubourg, il y en a plusieurs. Alors, Anna Bergman, ce n'est pas que la compagne de l'artiste Hans Hartung.
Non, non, non. Enfin,
c'est vraie artiste à part entière.
Voilà, ça c'est très clair. Je résiste pas au passage à dire que c'est parfois l'inverse. Il y a parfois des hommes artistes qui vivent dans l'ombre de leur femme artiste. Oui, oui. Je voudrais citer Vieira da Silva, qui est connue dans le monde entier et célébrée à juste titre, dont le mari était également peintre, Arpachenès. Et Arpachenès est aussi un très grand peintre.
Revenons à Anna Bergman. Nous n'avons que 55
Bergman.
Minutes.
Bon, eh bien, il faut aller voir cette exposition qui est magnifique. C'est la première grande rétrospective d'Anna Eva Bergman, cette Norvégienne, depuis une vingtaine d'années ou une quarantaine d'années. Et c'est une découverte, une vraie découverte. C'est une femme qui a voyagé énormément en Europe, qui a vécu dans beaucoup de pays en Europe, notamment en France bien sûr, mais qui très vite s'était beaucoup intéressée à Fra Angelico en Italie. Elle communiait quasiment quand elle regardait les fresques de Fra Angelico, et elle parlait d'une certaine piété cosmique en regardant Fra Angelico. Et en réalité, quand on regarde ses œuvres à elle aujourd'hui, et elle est morte il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on a ce même sentiment d'une quête spirituelle, d'une quête tout à la fois intérieure et extérieure. Il y a beaucoup de toiles où on a l'impression c'est entre la figuration et l'abstraction. C'est pas vraiment de l'abstraction, mais on a l'impression, bon, il y a la pyramide, il y a le tombeau de Théodoric, il y a il y a la stèle, il y a le soleil, le feu. Et on a l'impression effectivement d'une quête du cosmos, mais aussi d'une quête intérieure. Alors, il ne faut pas que je sois trop long, j'imagine. Il y a une raison très forte pour aller voir cette exposition, je crois. C'est que très souvent, on peut consulter un livre et tomber sur des reproductions superbes. Et finalement, pouvoir faire l'exposition chez soi. Mais avec Bergman, c'est d'une nature différente, parce que cette femme travaillait beaucoup, évidemment avec de la peinture à l'huile, mais avec des feuilles d'argent, des feuilles d'or.
Et ça, c'est difficile à reproduire.
Et ça, c'est très difficile à reproduire. Et ce sont des toiles qui, en fonction de l'éclairage, en tout cas, ce sont des toiles qui vous demandent. Elles exigent que vous soyez devant elles. Et donc, il faut...
J'aime bien cette expression, ce sont des toiles qui vous demandent.
Ben oui, elles vous demandent, et il faut avoir la politesse d'aller les voir, les contempler, les regarder. Et je crois qu'on capte, en les regardant longtemps, un petit peu de ce mystère et de cette quête spirituelle d'Anna Eva Bergman.
Alors on retient bien, Anna Eva Bergman, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est jusqu'à...
Au 16 juillet,
donc on aura encore un peu le temps. Nicolas Tauchet, émission après émission, par petites touches subtiles, vous nous convertissez à la musique électronique. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir un groupe qui propose un rock électro très élégant, ça s'appelle Grand Blanc. Je crois que vous les avez vus très récemment en concert.
Oui, je les ai vus au Trinitaire la semaine dernière, et puis c'était leur premier concert pour une nouvelle tournée. Ils jouent la Maroquinerie cette semaine, mais c'est déjà complet, hein, je vous le dis. Donc s'il faudra retourner les voir éventuellement à la Gaîté Lyrique, ce sera à l'automne, il y a une nouvelle date parisienne qui a été annoncée. Et en tout cas, je les connais depuis leur tout début. Vous le savez, j'ai travaillé longtemps au Trinitaire, je me suis occupé de la salle, et je les avais vus lors de leur tout premier concert, il y a une dizaine d'années déjà, parce que le groupe est né à Metz, en fait. Il sort cette semaine son nouveau disque qui s'appelle Allo. Alors Allo, pas comme quand on décroche le téléphone, Allo, H-A-L-O, hein, en fait, c'est parce que comme un Allo lumineux, parce qu'il est beaucoup question finalement de lumière dans ce disque. Leur premier album était tout en boîte à rythme et en synthétiseur, il s'appelait Mémoire Vive. C'était des synthétiseurs froids, un peu comme ça, un peu comme la New Wave, la Cold Wave. Et puis le deuxième, qui s'appelait Image au mur, était déjà plus pop décomplexé. Et le dernier est beaucoup plus acoustique, beaucoup plus doux. C'est beaucoup des instruments type la guitare, il y a la harpe qui est beaucoup utilisée, qu'on utilise finalement pas beaucoup dans la musique actuelle. Hein. Et ça donne un impressionnant aussi travail sur le son, parce qu'au-delà de ces instruments acoustique, ben c'est tout le travail de production autour de l'album qui est assez magique. Mais peut-être qu'on peut en écouter un extrait pour se rendre un petit peu compte.
Je l'avais là sur le bout de la langue, le nom d'un vieux tenu secret par les portes. Jardin.
C'est très soigné hein, comme production. Ça s'appelle Grand Blanc, c'est ça, Nicolas ?
Oui, c'est ça. Et donc, ça a été enregistré dans une maison. Ils sont un petit peu exilés de la ville, justement. C'est peut-être ce qui explique l'atmosphère de cet album. Mais on retrouve toujours une grande qualité de composition d'album en album. Et puis, surtout, une belle qualité d'écriture des paroles. On l'a entendu là un petit peu dans la voix de la chanteuse. Ils alternent. Hein, c'est que ce soit une chanteuse qui est Camille et puis, ou bien le chanteur qui est Benoît. Ils alternent le chant à deux voix. Mais c'est toujours la même qualité d'écriture de paroles. C'est toujours touchant. Et puis, ce nouvel album, encore une fois, il y a cette production un petit peu électronique. Vous l'avez dit, Stéphanie, mais autour de ces instruments acoustiques qui font finalement tout le cœur qui retrouve un petit peu comme un petit retour à la, je dirais presque à la nature qui est de la liberté de cet album-ci.
On écoute un deuxième extrait.
Super.
Je me suis jeté dans l'inconnu qui passait par là, comme j'étais l'inconnu pour lui, il s'est jeté en moi. L'un dans l'autre sommes-nous, deux à nous deux sommes, nous trois si nombreux que ça ne compte plus, ne compte pas. Qui sommes-nous en somme, et que sommes-nous venus ajouter? Nombre, nombre d'or et autres numéros, que rien ne sonne. Rien ni personne d'être plus que zéro, zéro, zéro. Immensité, immensité.
Ça s'appelle Grand Blanc, ils sont en tournée actuellement, la prochaine date à Paris est complète, il faudra attendre Paris et le mois de novembre à la Gaîté Lyrique si vous voulez trouver des places sur Paris, donc n'hésitez pas à réserver vos places. Voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence, merci à tous de l'avoir suivi, merci à ceux qui l'ont rendu possible, les chroniqueurs Laurent Grisheimer, Guillaume Goubert, Nicolas Tochet, et puis à la réalisation cette semaine, c'était Pierre-Henri Paget. Bien sûr, je ne vous laisse pas partir sans une citation. Il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment. Et c'est une citation de...
Colette ?
Non, Pompidou, bien sûr. Allez, bon week-end à tous.